Vous écoutez
RMC.
RMC. 14h-16h.
Lelouch à l'affiche.
Philippe Lelouch.
Et c'est avec une joie incommensurable que je vous retrouve en ce mercredi 27 mai 2020. Vous êtes sur Radio Monte Carlo et vous êtes avec la fine équipe, hein, la belle équipe, celle qui est un peu surnommée la Dream Team of the Radio. Hein, il s'agit bien sûr de Delphine. Comment ça va, Delphine ?
Bonjour Philippe, ça va très bien.
Delphine qui ne module pas sa voix, qui la transforme.
Mais il faut dire qu'elle colle sa bouche sur le micro.
Mais n'importe quoi, non, pas du tout. Non, pas du tout.
C'est normal que je vous vois pas, les garçons. Hein. Vous, tout cas, ça inquiète personne. Hein.
Non, mais si. Bah, attends, je recommence.
Tu réponds pas.
C'est toi qui n'as pas répondu. C'est tout.
Voilà. Je vous rappelle que comme on est confiné, on se voit par vidéo interposée. Ils en ont rien à foutre de me voir.
Non, mais pas du tout.
Ça va fuser les plaintes à la direction. Je peux vous dire. Il y a un moment, ça va mal se passer. Toujours est-il que Jérémy Barret, qui est avec nous, qui est venu par le 36h40 oui. tous les matins de Lille.
Oui.
Comment ça va, Rémi?
Salut, Barré. Philippe, parfait. Très bien.
Il impeccable. Est là, il est en forme, il est sublime, il est beau. C'est Philippe Curin qui va nous interpréter des histoires drôles toute l'après-midi, qui va nous faire jouer sur les liens sociaux. Philippe Curin, mesdames, messieurs, bonjour.
Bonjour Philippe Lelouch, bonjour Rémi Barré, bonjour Philippe Navarre. Aujourd'hui, dans Lelouch à la vie, j'ai préparé des petites blagues cocasses et drôlisses. Alors, à tout à l'heure pour la cocasserie de Curin.
En plus, il y a une chambre, il y a un écho.
Oui, c'est parce, qu'il s'est passé. Parce qu'il faut qu'il pouvait. Mais répondez sur WhatsApp, les amis. Non, ça ne marche pas. C'est pas grave.
Bon, c'est pas grave, tout ça va bien. Bon, vous allez bien, Delphine, pas de tricherie aujourd'hui. Rémi, t'as planqué tes fiches?
Ah non, alors il y a eu un incident tout à l'heure.
Non, c'est pas vrai, Philippe.
Alors un incident, il y a à peu près un quart d'heure. J'étais devant mon imprimante en train d'imprimer mes documents là pour l'émission, dont le C'est quoi ça. Et j'ai senti quelqu'un qui s'approchait de moi, qui m'a demandé si je pouvais, elle pouvait me donner un coup de main.
Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'aide à sortir des photocopies?
Voilà. Sachant très bien que ce sont des documents confidentiels, Philippe, évidemment.
Elle est prête à toutes les ruses pour réussir, y compris à utiliser d'une fausse gentillesse. Ouais. C'est démoniaque.
Je te signale que les auditeurs hier ont eu beaucoup de peine pour moi.
On en a tous eu de la peine pour toi, parce que tricher, donner la mauvaise réponse.
Ils vous ont trouvé très dur avec moi.
Sur la laissez pote.
Il y a une team Delphine.
Il y a carrément eu un sondage sur la laissez pote qu'ils ont fait entre eux, évidemment. Faut-il pardonner à Delphine?
Évidemment, tout le monde me pardonne.
Alors, il y a eu 145 voix pour et 23 voix contre. Il y a des gens qui ont dit non, je ne pardonne pas.
Au bûcher,
c'était.
Au bûcher. Alors, mon petit Rémi, aujourd'hui, une émission encore dans la joie et la bonne humeur. De quoi allons-nous parler?
On va lancer un appel solennel. Philippe, tu es d'accord avec moi? Il faut sauver les boîtes de nuit.
Ah bah ça, il y a une urgence absolue.
Vraiment, ouais, parce qu'elles étaient déjà mal en point, les discothèques. Hein. Il faut savoir qu'il en reste à peu près 1600 aujourd'hui, contre 5000 dans les années 80. Mais avec la crise du Covid-19, ça risque vraiment d'être l'hécatombe. D'après le syndicat national des discothèques, jusqu'à 40% des boîtes de nuit encore existantes pourraient définitivement glisser la clé sous la porte dans les semaines ou les mois qui viennent.
Ce serait dramatique.
Des discothèques fermées, forcément.
Il faut danser. Non mais il faut danser. Attendez. Là, on parle de choses extrêmement sérieuses.
Moi, je pense
vraiment. C'est pas de la rigolade. Il faut pour notre jeunesse, nous qui avons eu la chance de vivre entourés de boîtes de nuit, parce que je rappelle pour ceux qui sont nés dans les années 60-70 que les boîtes de nuit étaient l'endroit où nous allions tous les soirs de vacances a fortiori et les week-ends. Ça égayait notre jeunesse. On a découvert pour la plupart la façon d'aborder les garçons ou les filles, la musique, la joie. Il n'y a pas que de l'ivresse
et les copains.
Il y a longtemps, et les copains, etc. Ouais. Il faut sauver ça pour nos jeunes et pour nous, parce que même nous, de temps en temps, l'été, on aimerait bien pouvoir aller danser À force de restreindre ces gens-là, on arrivera à ne plus avoir de lieu de divertissement et ce serait bien grave.
Donc, exactement.
Voilà, alors, on a parlé des slows, bien sûr, parce que je vous rappelle aussi qu'il y avait des slows dans les boîtes de nuit. Mm. S'ils veulent les récupérer, comme j'ai l'impression que c'est la tendance, faudrait pour ça qu'elles puissent ouvrir. Et c'est vrai que c'est les parents pauvres, parce qu'on a parlé absolument de tout.
C'est ça.
Les corps de métier pendant ce confinement et très, très peu.
Pas du tout, même.
Des discothèques, des boîtes de nuit, des bars de nuit, ces endroits où, heureusement, on est encore vivant. Alors oui, c'est grave. Et c'est très grave. Appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez, comment on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Il faut une révolution pour les boîtes de nuit. Qui a imité? Eh bien, personne.
Non, mais c'était bien. Mais c'était bien, en tout cas.
Mais c'était, voilà. Tu vois, je peux inventer des voix qui n'existent pas.
Mais oui, c'est ça. Et on croit qu'elles existent. C'est ça qui est
extraordinaire. Et on croit qu'elles existent. On veut la rapprocher de quelqu'un. En fait, pas du tout. C'est une voix qui est complètement inventée. Voilà. Bon, donc on va parler de ça. Vraiment, c'est très important. En tout cas, pendant la première heure, sauvons nos discothèques, sauvons les endroits où on peut faire la fête et où encore on peut envoyer nos enfants, nos jeunes enfants, nos adolescents, pas les petits bien sûr, mais les adolescents, et qu'on soit sûr qu'ils passent de bons moments en toute sécurité, parce qu'il y a plein d'endroits qui prennent leur métier très au sérieux, hein, c'est-à-dire qui font attention à la consommation d'alcool de leurs clients, qui n'y ait pas de drogue, etc. C'est un vrai boulot, c'est un vrai gros travail de faire attention dans les endroits de nuit à ce que tout le monde s'amuse et ne fasse que s'amuser. Voilà, donc on parle de ça. Hein. On a déjà quelqu'un avec nous ? Non, on parle déjà.
Pas encore, mais
c'est en train de se caler là.
C'est en train. Mais en tout
cas, qu'est-ce qui se passe ? Et on a des problèmes techniques aujourd'hui.
Non, je suis juste en train.
Je ne vous vois toujours pas.
Bah, quand non, même. Mais non,
je ne reçois pas d'appel sur tous les enfants.
Pourtant, on t'appelle.
Non, je ne reçois pas d'appel.
Je recommence. Voilà, c'est bon.
Voilà, recommence.
Mais ça y est, c'est reparti.
Pour revenir à ce que tu disais, Philippe, à l'instant, tu parlais d'un sujet très sérieux. Il faut quand même savoir que les seules discothèques, si tu rajoutes les bars de nuit, ça fait 55 000 emplois en France. 55 000 emplois en France, c'est vraiment pas rien. Tu vois, quand on parle de Renault là, qui pourrait supprimer 5 000 emplois, évidemment, c'est dramatique. Mais là, c'est 55 000 emplois et personne n'en parle. Voilà.
Donc il faut absolument en parler. Et puis bien sûr, nous allons retrouver le C'est quoi ça, hein, ce jeu au générique célèbre dans le monde entier. Nous allons nous amuser. Hein.
Tiens, il est là.
Vraiment, tiens.
Allez, on va le lancer maintenant.
Allez, on va le lancer.
On est fou. Allez.
Comme tous les jours, il y a une actualité, à deviner. Voilà, il y a un indice pour vous aider. On l'écoute tout de suite.
Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est.
Elle a les yeux qui sont mis à briller. Elle a un cahier de tout. Alors donne un indice.
Le pire, c'est qu'elle a pris des notes.
Un indice.
Ouais.
Allez, un indice, pas la réponse, un indice si tu sais ce que c'est.
C'est des criquets.
Voilà.
Bon.
Voilà, des criquets. Voilà. Et alors, ce serait en rapport avec quelle actualité ?
Tu veux vraiment que je la dise ? Parce que
vas-y.
C'est les côtes d'Australie qui ont été ravagées par une tempête. Non, pas du tout. C'est une invasion de criquets qui a eu et qui a ravagé des parcelles, des parcelles d'agriculteurs.
D'accord.
L'invasion de criquets qui a eu lieu genre il y a deux jours.
C'est assez. Non, c'est vrai. Donc, je pense que tu as la réponse.
Hein. N'envoyez pas cette réponse par texto, ce n'est pas la réponse. Voilà.
Non, c'est pas ça du tout.
C'est pas vrai.
Évidemment.
Dites-lui qu'elle a gagné. Qu'est-ce qu'on nous a dit encore ce matin ? Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Jean ?
Faut pas la contrarier. Ne la contrariez pas.
Donnez-lui confiance en elle. Elle est en déclin de confiance. Pour aller mieux, il faut qu'elle reprenne un peu de confiance en elle.
Il n'a pas dit en déclin de confiance. Hein. Il a dit en déclin tout court. Il a dit.
C'est vraiment pas ça la réponse.
Delphine,
si, c'est ça.
C'est pas ça. Si tu avais poussé même plus loin,
si c'est ça,
nous aurais dit que ces criquets, c'était des sortes de criquets zombies qui avaient passé 12 ans sous la terre. C'est une info qui date de la semaine dernière.
Donc Delphine a trouvé le c'est quoi ça. Mais si vous avez une autre idée, vous envoyez LAL par SMS au 732-16. LAL, L-A-L par SMS.
Mais une idée totalement différente, voilà. N'hésitez pas.
Hein.
Surtout.
Non, mais n'hésitez pas, si ça se trouve, c'est ça. Ils vous induisent en erreur.
Mais non, mais c'est triste.
Vous êtes tellement manipulateurs, vous seriez capable.
Mais non, Delphine, jamais on n'oserait faire ça. Jamais.
Les garçons, elle est vraiment.
Elle ne va pas bien.
Non.
Elle voit des choses.
Écoutez ce rire.
Elle voit des choses.
C'est le signe de quelqu'un qui va très bien. Elle voit des choses
que nous ne voyons pas.
Oh mon Dieu.
Elle voit des choses que nous ne voyons pas.
Non mais arrêtez, on est capable de nous enlever l'émission. Arrêtez. Là, il se passe des choses quand même.
C'est flippant. C'est flippant.
C'est vraiment flippant.
Philippe, tu peux te décrocher. Voilà.
Et merci. Pourtant, elle est jolie. Hein.
Oh,
c'est ça qui est dingue. Bah oui. Tu te rends compte, quel gâchis.
C'est une beauté.
Oui.
Une beauté.
Prions pour Delphine qui est née différente.
Amen.
Bon, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, alors, pour jouer, qu'est-ce qu'on gagne d'abord, Rémi, pour le
c'est quoi, on gagne des produits, des objets siglés RMC.
Ça va durer combien de temps, ça? C'est-à-dire que les cadeaux confinement.
Je crois que. Alors, bon, tu sais, je me réfère au.
C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment on va faire gagner des trucs intéressants aux gens ou est-ce qu'on va leur envoyer des trucs pourris toute la semaine?
On est sur une fin de saison là.
Non, mais là, on est dans le déstockage massif là.
Je me réfère aux prévisions de l'INSEE vu la décroissance qu'ils nous prévoient. Ça peut pas tout de suite.
Voilà. Voilà, d'accord. Donc, on va sur l'été.
Ramenez-nous vite des cadeaux parce que là, ça devient. Les mugs RMC, ça va. Oui. Bon, mais comme les gens dans cette émission sont fort sympathiques, ils jouent pour le plaisir de jouer, non pas pour le gain. C'est donc pas un gain qui vous intéresse, mais tout à fait la beauté du jeu. Mesdames et messieurs, coucou. Nous allons nous retrouver dans quelques instants après une courte pause avec Philippe Carré et Delphine Benatar. À tout de suite sur RMC.
C'est jusqu'à 16h.
Lelouch à l'affiche.
Adrien, tu m'entends ou pas? Tu m'entends pas, toi?
Mais tout le monde t'entend.
Bonjour Philippe.
Eh ben, tout le monde m'entend. Bah oui, c'est normal puisqu'on est à l'antenne. Ça va de mieux en mieux. Les mecs, maintenant, la coupure pub, ils se parlent comme si. Voilà. C'est comme ça. Philippe Cura demandait la parole. Tu demandais la parole, mon petit Cura, car tu as quelqu'un en ligne qui t'est cher, parce que tu ne le connais pas. Il s'appelle Andy.
Si, je le connais parfaitement. J'ai travaillé beaucoup avec lui en boîte de nuit, parce que comme vous qui nous écoutez, j'ai travaillé pendant presque 30 ans la nuit. Et donc, voilà, il y a Andy qui est avec nous. Andy, ça a été il a commencé par être videur, physionomiste et directeur de grosses boîtes dans Paris. Donc, il est avec nous. Salut Andy.
Salut mon poteau.
Ça va?
Comment ça va, Andy?
Ben, très bien, Philippe. J'ai eu la chance de te rencontrer quelques fois avec ta pétrolette dans Paris, là.
Ah oui, donc, ça m'arrive.
Ouais. Tu es venu dans un établissement de nuit où je travaillais. On avait discuté d'un relais, justement, puisque je roulais en bécane, et voilà, quoi.
Ouais. Alors, Andy, comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Bah, tu étais sur le carreau, là, en ce moment, non?
Ah, bon, moi, je suis c'est la galère. C'est une grosse galère, mais ça, comme je disais avec Fifi, on en parlait, ça fait 20 ans que ça va dans le déclin, mais là, avec ce qui se passe maintenant, c'est droit dans le mur, quoi. Moi, j'ai que des amis qui m'appellent, qui me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la nuit, vous avez dit, il y a 55 000 personnes qui travaillent dans la nuit, mais il n'y a pas que ça, quoi. Je veux dire, les brasseurs.
Bien sûr.
Les brasseurs, déjà.
Bien sûr, les cafés, les restaurants, tout ça, bien sûr, c'est tragique.
Voilà, c'est tragique.
Mais nous, on parlait des établissements de nuit parce que bah, c'est encore là. La France a longtemps eu, et Paris, mais tout le reste de la France, la réputation d'être un pays de fêtes et de fêtards, et que ça va de mal en pis. Tu as raison, depuis 20 ans, pour tout un tas de raisons, y compris les interdictions qui sont les nuisances sonores, les machins, enfin il y a
les contraintes administratives, etc.
Les contraintes de d'hygiène, de trucs, de sécurité, de machins. Bon, c'est à se demander comment on faisait avant, parce qu'il y avait pas tout ça, et maintenant il y a évidemment le Covid-19 et ce confinement qui a fait que vous êtes en péril, et que c'est vrai qu'on a l'impression que les boîtes de nuit, les discothèques, tous les établissements nocturnes, finalement, sont les parents pauvres de ce confinement, parce que toutes les professions ou presque ont été citées et aidées, et quid des établissements de nuit? Donc je te pose la question, Andy.
Ben oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et moi je vois pas à l'issue. Si c'est parti comme ça, moi je ne vois pas un avenir bienveillant pour les établissements de nuit. Comme tu dis, on est complètement mis de côté. On n'en parle pas. Tout le monde s'en fout. Si tu regardes un petit post de Jean Roch, si tu regardes les commentaires, les gens ils l'ont défoncé. Ouais, il a gagné de l'argent. Mais combien il a fait gagner d'argent aux autres aussi?
Non, bien sûr, puis combien de nuits il a animé?
Il faut rappeler Jean Roch, qui est une figure des nuits parisiennes, hein, qui vient d'annoncer la fermeture du VIP Room
à Paris,
et qui dit, justement, je voulais intervenir parce qu'il dit lui-même, Paris n'est plus une fête, et c'est là tu vois la différence, parce que on n'a pas parlé non plus des grandes villes qui attirent, évidemment, on le sait, la France est un pays très touristique, mais quand t'as 28 ans ou 30 ans, peu importe, ou même 35 ou 40, et que t'es américain, anglais ou croate ou serbe, peu importe, que tu viens à Paris et que le soir t'as envie de faire la fête, tu vas où aujourd'hui?
On est bien d'accord.
Mais
la grande différence. Pas forcément envie d'aller au Moulin Rouge, forcément.
Bah non, mais Paris by Night, à part le, enfin, on caricature, hein, mais ce qu'on disait tout ce matin avec Cura, à part les bateaux mouches, c'est quoi Paris by Night aujourd'hui?
Non, mais surtout que moi, alors, je vais même vous donner une technique qu'on avait, nous, quand on était môme, c'est-à-dire quand moi j'avais 18, 20 ans, on allait à la Scala, parce que c'est là qu'allaient toutes les étrangères.
Bah,
on se disait, au moins on peut pécho de la suédoise. Bon, ça marchait une fois sur 30. Hein.
Et la grande différence avec d'autres pays, on sait qu'aujourd'hui, une des capitales européennes, mais peut-être même la capitale européenne de la fête, c'est Berlin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Berlin? Eh ben, l'État allemand vient de décider de consacrer 900 millions d'euros au monde de la nuit à Berlin. Parce qu'ils savent juste que c'est une vraie économie.
Est-ce que vous êtes regroupés un peu les professionnels de la nuit? Est-ce que tu as entendu parler d'un regroupement, d'associations, de trucs ou de...
Il y a des syndicats qui se sont montés, qui existent depuis longtemps. Mais comme je te disais, on est bloqué dans tous les sens. Dans tous les sens. Comme tu as dit à juste titre, moi je travaillais dans un lieu, on va pas le nommer, qui était sous un pont.
Si, tu peux le nommer, c'est le Faust.
Si, tu peux le nommer.
Voilà, mais c'était le Faust. Mais au Faust, on a eu. On avait des plaintes de nuisances sonores, mais des trucs improbables. Moi, j'ai reçu des plaintes le 24 décembre, alors qu'on était fermé. On avait des gens, on était dans le collimateur de tout. Il y a quelqu'un qui se jetait d'un pont, malheureusement, c'était la faute du Faust, ou du Showcase, ou etc. Les voisins déposaient plainte. Pourquoi? C'est simple, parce qu'il y a une manne financière, et que les mecs, à 90%, ils sont sûrs de gagner. Ils sont sûrs de gagner derrière. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attaquaient. Et eux, par contre, ils se montaient en syndicat et tu te mangeais une péniche, deux péniches, 40 péniches. Et si tu arrives à situer, bon, je sais que tu connais bien Paris, Philippe, tu situes le Faust, il y avait des mecs sur le Tour Eiffel, ils déposaient plainte contre nous.
C'est le pont des Invalides, le Faust.
Non, mais ce qui est dramatique, c'est est-ce que la France va à ce point-là perdre de toute sa gaieté et de sa folie?
Mais totalement.
Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que évidemment qu'il y a eu des boîtes de nuit où il y a eu des débordements. On sait tout ça. Comme autrefois, il y avait des balles de province où il y avait des bagarres.
Bon,
ça a toujours existé. Mais est-ce qu'on va laisser les Français devenir un peuple de latin triste? Hein, c'est ça qui me fait de la peine. Et est-ce qu'on va laisser nos mômes et tout ça sans endroit pour pouvoir aller faire la fête et se regrouper? Dieu sait si on a tous aimé ça. Moi, je suis un fervent défenseur de ça, mais j'ai bien peur, effectivement, comme l'a dit Jean Roch, qui était un des derniers piliers de la nuit. Jean Roch et Tony Gomez, hein, pour ceux qui connaissent un peu les boîtes de nuit, qu'on embrasse tous les deux d'ailleurs, qui étaient les patrons un peu de la nuit à Paris, qui se font eux qui ont connu le Paris si festif, qui se font un sang d'encre. Mais il n'y a pas que eux. Évidemment que c'est leur activité. Évidemment qu'ils ont gagné de l'argent. Ben, on travaille tous pour gagner de l'argent.
Ah, tant mieux. Hein,
de l'argent. Évidemment, tant mieux. Donc c'est la difficulté, c'est de se dire très bien. Et quand ils seront plus là, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, est-ce qu'on va tous être obligés d'aller dans des bars qui sont des PMU qui mettent de la musique et qui vont remplacer les boîtes de nuit?
Oui, non,
c'est pas la même chose.
On va vers ce module-là. Moi, j'ai vu un documentaire là sur le Palace dans les années 80,
ouais,
et c'était extraordinaire. En fait, c'était 1500 personnes tous les soirs, du lundi au lundi. La discothèque était blindée de monde. Les Parisiens sortaient, ceux qui étaient en Île-de-France sortaient. Aujourd'hui, il n'y a pas en semaine.
Hein, les gens se réunissent dans les bars, en fait.
Mais il n'y a pas un club en semaine qui est blindé.
C'est un désert.
C'est fini.
Il y a 7-8 ans. Maintenant, c'est des bars.
Il y a 7-8 ans.
Le Baron, le Montana.
Le Montana.
Vous êtes exclusivement parisien.
Mais moi, je parle de Paris, parce que j'habite à Paris. Mais c'est pire en province, Philippe.
Alors, justement, est-ce que. Faut nous le dire. Appelez-nous, n'hésitez pas au 32-16 pour nous dire comment ça se passe à Lyon, à Marseille, à Strasbourg. Bon, Strasbourg, à mon sens, ça n'a jamais été une ville de grands fêtards. Mais je.
Appelez-nous au 32-16.
Strasbourg n'a jamais eu la réputation d'être, le centre de la nuit en France, mais peut-être
on
je me gourre.
On ne sait pas.
Dans toutes les villes de France.
Andy travaille beaucoup maintenant dans le Sud et a travaillé dans le Sud. Tu t'entends penses quoi en ce moment, toi, Andy?
Alors, justement, j'allais faire un paradoxe parce que moi, j'ai eu la chance de travailler et en province et à la capitale. Donc, j'ai vu les deux trucs. À Paris, on pourra quand même sortir parce qu'il y a le métro, il y a les taxis. Mais maintenant, la nuit, quand vous vous dites quand même, parce que c'est vicieux, vous avez un établissement de nuit en province, que ce soit à Dunkerque, à Avignon, etc. et on va mettre un contrôle routier à 50 mètres.
Ouais, mais ils ont été intelligents, les patrons de boîte, parce que je sais qu'ils ont mis en place plein de dispositifs avec des sortes de captains, enfin de
taxis qui venaient. Ça marche pas tout le temps.
Non, mais Rémi, entre toi et moi, comment tu peux prouver que le mec qui est venu dans l'établissement de nuit avait déjà pas bu?
Ouais. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi.
Tu fais pas souffler le mec en arrivant, tu le fais souffler en sortant. Il y a plein de trucs qui sont incohérents. On vous demande de plus faire fumer les gens, donc vous les faites sortir. Quand vous les faites sortir, vous prenez une nuisance sonore, donc vous les faites rentrer. Donc le mec qui fume, c'est toi qui prends.
Parce que forcément, les gens qui sortent fumer, ils parlent, ils crient.
Mais bien sûr, ils font pas de l'apnée, dehors.
La mairie de Paris a créé une brigade anti-bruit sur les tapages nocturnes. Hein. C'est-à-dire que c'est une brigade spécialisée qui va contrôler les décibels dans la rue et partout.
C'est gay. C'est vraiment gay. Voilà, si on veut continuer comme ça va être très compliqué, les enfants. Ça va être très compliqué.
Ce qu'on a connu, nous, on ne pourra plus le connaître. C'est sûr. C'est pas pour rien que Rémi l'a dit, que toutes les boîtes de nuit, il y a plus d'un tiers de boîtes de nuit. Moi, je suis du sud de la France. Autour de chez moi, il y avait une quinzaine de boîtes de nuit. Maintenant, ils se tirent la bourre sur deux.
C'est partout en France,
Et Paris,
je peux te parler de Sainte-Maxime où je suis en ce moment. Il y avait cinq boîtes de nuit dans les années 80, il n'y en a plus une seule.
Ce qui va rester, c'est que les gros groupes, attachés à des groupes monstrueux comme des hôtels qu'on ne s'y trompe pas, eux, ils savent très bien, ils sont solides, ils ont les reins solides. Mais le pauvre mec qui s'est battu pendant 30 ans pour qu'un mec comme Jean Roch, il lâche. Il était solide, Jean Roch, quand même. Il avait sa réputation, il n'avait plus rien à prouver. Et ce mec-là, il y allait sur le rideau, les loyers, les trucs, parce qu'on vous aide. On ne vous aide pas en boîte de nuit. En boîte de nuit, soit on est considéré comme des voyous, soit on est considéré comme des drogués. Alors que moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport tous les jours.
Et à côté de ça, on a Rémi Barret qui est une loque et qui est journaliste.
C'est
dramatique. À côté de ça, on a Rémi Barret qui est drogué, alcoolique, complètement carifondé tous les matins 6h42. En plus, il est ch'ti. Reste avec nous, Andy, on va continuer à parler de ça. Il faut, à mon sens, mais dites-nous si vous êtes d'accord ou pas, il faut sauver les boîtes de nuit, il faut sauver la fête en France. Vraiment, c'est mon avis. Peut-être que vous avez un avis contraire et que vous allez m'éclairer. En tout cas, appelez pour nous dire ce que vous en pensez au 32-16. On se retrouve tout de suite dans Le Louche à l'affiche sur RMC.
RMC jusqu'à 16h. Le Louche à l'affiche. RMC jusqu'à 16h. Le Louche à l'affiche.
Oui, et on est bien content d'être avec vous jusqu'à 16h sur RMC, la plus belle des radios. Accompagné par les plus beaux des animateurs et des animatrices, Delphine Benatar, sublime. Les mecs qui croient qu'il est en boîte de nuit.
Delphine, on lève les mains en l'air pour toucher le bout des doigts.
On a Philippe Curard.
Salut à tous, super ambiance ce soir. Soir.
Et pour tous les goodies et pour vous amuser au bar, le superbe Rémi.
Rémi Barret.
Bon, on plaisante assez moyennement, un peu le cœur lourd, parce qu'on se rend compte effectivement, serait-ce la disparition des établissements de nuit en France, évidemment. À cause du Covid-19, comme beaucoup d'entreprises, pas seulement les établissements de nuit, mais ceux-là, en l'occurrence, ils morflent vénère. Ils sont pas tellement considérés, en tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Mais surtout, on s'inquiète sur le futur. Est-ce que c'est l'occasion qui fait le larron et que certains vont essayer d'en profiter pour supprimer cette activité-là? C'est de mal en pis. Effectivement, ils subissent depuis des années tout un tas d'interdictions qui sont de pire en pire et parfois en dépit du bon sens. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même l'endroit où s'exprimer. En tout cas, nous, notre génération, notre jeunesse, et on aimerait bien c'est qu'elle s'exprime encore et pour longtemps de cette façon-là. Alors on a dit oui, Rémi.
Je peux te lire un message justement qui illustre bien ce que tu es en train de raconter, parce qu'il y a Alain qui nous écrit ça sur Direct Studio. Bonjour à tous. J'ai travaillé 10 ans en boîte de nuit comme portier en 1999. J'ai rencontré une jeune fille qui est devenue ma femme. C'était en boîte et qui m'a donné 3 belles jeunes filles. Je regrette juste une chose, que les boîtes de nuit continuent à ouvrir leurs portes et à accueillir nos enfants. Gros bisous, j'ai envie que mes enfants connaissent la joie que j'ai eue de connaître les boîtes de nuit.
Bah oui, on aimerait bien tous qu'ils connaissent ça. Delphine, toi t'as connu les boîtes de nuit?
Moi j'étais une grosse sorteuse.
Bah oui, on l'appelait Fifine de la Night.
J'adorais
de la Night.
Non, mais jusqu'à.
Il y a tout le monde, il y a Fifine de la Night, il y a tout le monde.
Le nom est devenu ringard en 8 jours.
si, je me souviens.
Fifine de la Night.
On me disait, tu fais quoi ce soir? On vient en boîte. Et moi, je dis, bon, ouais, mais si, Fifine de la Night.
Fifine de la Night et ses copines. Sérieux? Ouais.
Avec son jeu de jambes extraordinaire sur la piste de danse.
Ah ouais, mais attends, mais
à cette époque-là, c'était vénère. Un jour, je me souviens d'avoir vu un article dans Gada. il y avait Madonna et on disait quelle est cette femme à côté de Fifine de la Night.
Ouais, c'est ça.
Andy, t'as connu, toi qui as l'antenne avec nous sur RMC, t'as connu ces grandes années de boîte de nuit à Paris, de discothèque. Aujourd'hui, tu me dis, ça n'arrivera plus jamais, c'est fini.
Non, c'est terminé dans le sens où, mais comme je dis, il n'y a pas eu que le Covid-19. Si c'était que le Covid-19, on pourrait dire, bon, mais c'est vraiment, c'est la fatalité. Mais non, ça a été depuis longtemps. Ça fait 10 ans. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Cura. On a vu des choses, mais improbables. Moi, j'ai vu des choses improbables. Moi, quand j'étais portier, j'ai vu des vedettes américaines qui m'expliquaient à moi qu'ils venaient à Paris parce qu'on avait un sens de la fête. On avait un truc qui était propre à la France. C'était propre à la France. Ce truc à la con, comme on dit, la French Touch. Après, comme a dit Rémi, Berlin, c'est autre chose. Berlin, c'est des gros établissements où ça tabasse.
C'est de l'électro, c'est beaucoup.
Voilà. Sauf que là-bas, ils ont vraiment conscience qu'il y a une réelle
importance. Il y a une manne financière énorme.
Mais voilà. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes et de moins jeunes, hein, de trentenaires, qui vont à Berlin. Et l'une des motivations pour aller à Berlin, c'est qu'ils savent qu'ils vont pouvoir faire la fête.
C'est un autre truc, Berlin. Je pense que c'est la culture musicale qui amène les gens vers la culture musicale électro, ils vont en soirée.
La fête, c'est un vrai motif pour aller à Berlin pour les touristes.
Ouais. Exactement. C'est une sorte de fête. Il y a Paris il y a 15 ans.
Enfin, moi, ce serait compliqué de prendre le train pour aller à Berlin, je vous le dis tout de suite. J'aurais un repas.
Non, mais il y a d'autres choses à faire, mais c'est une des choses.
Non, mais je plaisante.
C'est vrai qu'Andy et moi, on a quand même vécu des dernières belles grandes histoires de nuit dans Paris, parce qu'on a fini par travailler au Montana ensemble, qui était une boîte très branchée dans Paris, et on a vu débouler toutes les plus grosses restas hollywoodiennes, les plus gros chanteurs.
Il y a plein d'anecdotes.
Moi, j'ai fait danser Mick Jagger sur du Mick Jagger, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Tu t'en rappelles. Il y a de très belles anecdotes, et maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, comme le dit très justement Andy, c'est fini, tout ça, c'est terminé.
Ça va être les complexes, mais ça va être longtemps. Mais ça va revenir quand et comment? C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, Andy. Bon, écoute, Andy, on te remercie infiniment de ton témoignage.
Merci, Andy.
On t'embrasse et on est vraiment de tout cœur avec les discothèques. On t'embrasse fort. Oui.
Continuez, vous êtes au top, les gars.
Merci, ciao, amico.
C'est très important pour moi, je trouve, de maintenir. Je trouve ça tellement triste de voir aujourd'hui des mômes se balader avec des bouteilles, des bouteilles de jus de fruits faussement remplies de jus de fruits.
Parce qu'il n'y a plus de boîte de nuit, parce que du coup,
ils font la fête comme ils peuvent.
Ils font la fête dans les apparts aujourd'hui.
C'est donc que tu es à peu près condamné à faire la fête que avec les gens que tu connais. Or, ce qui était merveilleux aussi dans les boîtes de nuit, c'est les rencontres, évidemment. Puis, comme nous le disait tout à l'heure le témoin. Oui, Rémi.
Je sais pas quelles étaient vos habitudes, mais l'un n'empêchait pas l'autre. Moi, quand j'étais étudiant, on faisait la fête en appart. Mm. Après, on allait boire un verre parce qu'on était étudiant, on avait pas beaucoup d'argent dans un bar, et après, on allait en boîte.
Oui, c'est vrai.
On allait souvent en boîte. Moi, de toute façon, j'allais en boîte. Vous le savez.
La plupart
des garçons de mon âge. Moi,
à Paris, t'allais où?
J'allais au Pago Pago, le mec qui invente du monde boîte.
Tu sais que ça existe, le Pago Pago, à Chimazarin. À Chimazarin, il y a le Pago Pago. Je te jure.
Le sale nom pourri, le Pago Pago. J'allais comme tout le monde chez Olivia Valère à une époque. Je suis arrivé à la fin du Palace, j'étais trop petit, trop jeune pour avoir connu les grandes années du Palace, mais les bains douches, bien sûr. Mm. Je me suis fait caler un nombre de fois incalculable, mais je parlais de Sainte-Maxime, par exemple, dans le Var, où mes plus belles années de jeunesse, d'adolescence, se faisait ou au Citerre ou au Saint-Hilaire de la Mer, qui étaient deux boîtes de nuit en bord de l'eau, dont les noms nous font rêver, et qui n'existent plus aujourd'hui. Mmh. Et qui n'existent plus. Voilà. Ouais. Parce que, comme me disait le maire de Sainte-Maxime il n'y a pas très longtemps, ça n'est pas par faute, et je pense que c'est dans beaucoup d'endroits comme celui-là, Vincent Maurice, maire de Sainte-Maxime, me disait ça n'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui a envie de s'emmerder à avoir une boîte de nuit avec autant de contraintes. La peur de la drogue, la peur d'avoir de l'alcoolisme, l'interdiction de fumer, etc. C'est tellement de contraintes, alors que c'est un boulot très difficile, parce que, évidemment, on travaille la nuit, donc on n'a pas de vie de famille, etc., etc., etc. Donc je pense qu'il faudrait aujourd'hui aider ces gens-là à s'en sortir, sinon, ça va être très triste. On ne saura plus où sortir, et je considère, je ne sais pas si vous êtes comme moi, que les bars, et les restaurants qui mettent de la musique jusqu'à 2h, parce que c'est en général l'heure de fermeture obligatoire pour eux, c'est quand même pas la même ambiance.
Mais c'est autre chose.
Ça n'a rien à voir, voilà. Évidemment.
On est d'accord.
Évidemment.
Sauvons les boîtes de nuit. C'est un peu notre dada du jour, hein, vraiment. Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous appeler au 3216, Rémi.
Exactement. Non,
on a besoin.
Et vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur Direct Studio. Il y a déjà beaucoup de messages, j'en lis quelques-uns.
Mais bonjour
les amis, merci beaucoup pour la bonne humeur, nous dit Nicolas, on entame. Et il dit, c'est vrai que moi j'ai des super souvenirs en boîte de nuit. Quoi ? Des moments inoubliables passés avec les copains. Et c'était pas l'image d'Épinal qu'on en a. Moi, je buvais pas spécialement. Voilà, je buvais un verre dans la soirée, ça suffisait largement. Mais je m'amusais avec mes amis. Et les autres boîtes de nuit ont aussi souffert d'images caricaturales, nous dit-il.
Bah, bien sûr. Bah, moi, j'ai été en boîte. Moi, je n'ai jamais bu d'alcool dans ma vie. C'est vrai.
Ouais,
hein,
ouais.
Jamais. Donc, le ticket d'entrée que j'avais, c'était pour payer un verre à une fille, quoi. Tu sais qu'avec le ticket d'entrée, t'avais un verre gratuit.
Bah, oui.
Moi, je le gardais pour l'offrir à la fille. Voilà. Parce que je m'en servais. Pas.
C'est chic.
Donc j'allais aux toilettes boire de l'eau.
C'est vrai qu'on payait
sous le robinet comme à l'école.
Ouais. Moi je travaillais dans une boîte de nuit, ils mettaient de l'eau tiède, ces enfoirés.
Ouais,
oui.
C'est très malin. Comme dans les airs de l'autoroute.
Ouais, c'est ça. C'était une horreur.
Mais j'ai jamais vu une boîte de nuit te refuser un verre d'eau. Hein.
Non, c'est interdit.
Tu vois,
c'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Normalement, tu es censé rentrer dans n'importe quel restaurant, café.
Ils n'ont pas le droit de te refuser.
Ils n'ont pas le droit de te refuser un verre d'eau gratuit.
Oui, bien sûr. Mais c'est le cas. J'ai jamais vu une boîte obligée à consommer. On y allait pour danser, chanter, on payait l'entrée. À l'époque, c'était 50 francs. C'est-à-dire, on parle d'aujourd'hui de 8 euros. Hein, et tu avais une consommation offerte.
Alors, évidemment, c'est fini. Maintenant, c'est gratuit l'entrée, mais tu payes directement ta conso.
Voilà.
C'est pas plus bête.
Non.
Mais il faut les aider. Il faut les aider avec de la bonne musique. On a Big Jones qui est avec nous. Je soupçonne que ce soit un pseudo.
Je ne pense pas
que ses parents lui aient dit tiens, on va l'appeler Big.
Alors, Delphine va le présenter parce qu'elle le connaît très bien.
Parce que je l'ai connu de nombreuses années parce qu'il était physio du Baron, une prestigieuse boîte parisienne. Et du coup, comme j'y allais à peu près une à deux fois par semaine.
Oh, tu es allé chez mon frère, parce que je pense qu'avec le temps qu'il y a passé, il doit avoir à peu près 50 sièges là-bas.
C'est
voilà,
c'était
à lui.
Aussi le lieu de ton frère. Donc voilà, on était des grands habitués. Et puis Big John, c'était un peu la rosta de la porte d'entrée. Et d'ailleurs, il a même écrit un bouquin qui s'appelle Big John de Paname, où il a fait une sorte de recueil d'anecdotes d'entrée de boîte de nuit. Ouais. Et voilà.
Moi, Big John,
Big
John, je le connais que à la porte du Baron. Voilà. J'ai jamais pu rentrer au Baron.
Et il est avec nous.
Il n'a jamais laissé rentrer.
Salut, Big John.
Il est avec nous. Comment ça va, Big John?
Ça va et vous?
Ça va super.
Et on va très bien.
Vous m'entendez bien?
Ouais,
on t'entend très bien. Bon, alors comment tu vis tout ce qui se passe en ce moment, toi, Big John?
Comment je le vis? Alors, je le vis pas trop mal moralement parce que je m'occupe de mes enfants toute la journée. Du coup, au lieu de faire la sécurité avec des clients, je fais la sécurité avec des enfants. Donc de ce côté-là, ça va plutôt bien parce que ça permet de créer un lien avec eux. Mais après, on va pas se mentir que c'est quand même assez redondant et que financièrement, c'est pas non plus la même chose.
Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des boîtes de nuit, toi, aujourd'hui? Comment ça a évolué et tout, mis à part le Covid?
Alors déjà, nous, on a eu plusieurs passages compliqués parce que avant le Covid, on a eu les gilets jaunes qui ont quand même mis un petit coup à la nuit parisienne. Avant ça, on avait eu surtout les attentats qui ont mis un très gros coup à la nuit parisienne. Et puis en plus, la multiplication des établissements font que la concurrence est beaucoup plus dure, donc ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que le Covid n'arrange pas les choses et on ne sait pas encore dans le futur comment ça va évoluer.
Toi, tu dis qu'il y a une multiplication des établissements, qu'il y en a plein.
Des bars de nuit.
Ah, il y en a beaucoup plus qu'avant.
Non, il y a nulle part où sortir.
Mais si,
alors non, en fait, il y en a plein, sauf que peut-être que musicalement, vous y retrouvez moins qu'avant. Mais si on parle des années 80-90, vous allez me citer 3 ou 4 boîtes de nuit max. Si on arrive dans les années 2000, juste sur les Champs-Élysées, vous avez déjà une dizaine de boîtes de nuit. Aujourd'hui, vous avez juste sur le quartier du 8e et du 16e, vous avez une vingtaine d'établissements. Si vous prenez en plus l'Est parisien avec la Cité de la Mode ou Pigalle avec tous les petits clubs bronzés qui ouvrent, République, etc., on a une multiplication des boîtes de nuit, sauf qu'on les connaît pas tous parce que chaque boîte de nuit a un univers musical différent et qu'en général, on va dans une boîte où on aime la musique.
Alors là, on parle de Paris, mais si on regarde les chiffres au niveau national, ça c'est le syndicat national des discothèques qui donne ces chiffres. Il y a aujourd'hui 1600 discothèques en France, et il y en avait 5000 dans les années 80.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais ça va aussi avec les statistiques qu'on lit sur le fait que les zones rurales sont de plus en plus désertes et que les gens vont de plus en plus vers les grandes villes. En fait, il y a une logique à ça. À partir du moment où il n'y a plus de clients dans les petites villes de province et que les gens se rapprochent des grandes villes, c'est les grandes villes qui peuvent profiter de ce côté, du côté économique. Et malheureusement, il y a des grosses boîtes de province qui ferment. La différence, c'est que Paris est pleine de petites boîtes de 50 à 250 personnes.
Ah ouais.
Là où, lorsque vous sortez de Paris, en général, on arrive sur des grosses machines qui dépassent les 1000 personnes et qui, des fois...
Enfin, à Paris, avant, c'était ça aussi, Big John. Hein, c'était quand t'allais chez Olivia Valère, que chez Régine, chez Castel. Il y avait toutes ces boîtes-là qu'on a connues, les bains-douches, tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, c'est peut-être la multiplication. J'entends ce que tu dis, ce qui prouve que j'ai pris un gros coup de vieux, hein, parce que j'en connais pas une de toutes celles que tu as citées. Mais quand j'entends ce que tu me dis, je me dis c'est assez triste parce que les lieux de rassemblement de gens n'existent plus. Si on doit aller dans
ils existent encore. Je vous donne l'exemple de la Cité de la Mode. La Cité de la Mode, vous avez trois boîtes de nuit dans un endroit. Alors ça se trouve qu'à Livry. Vous avez le Wonderless qui doit faire à peu près 1500 personnes. Vous avez sur le toit, je crois que c'est le Café Débonnaire qui prend à peu près 2000 personnes. Et vous avez deux établissements en sous-sol qui font chacun 800 personnes. Donc on a encore des boîtes de masse, mais c'est vrai que c'est devenu moins la tendance.
Non,
la
mais tendance c'est... est... Oui, excuse-moi, Big John, ça marche quoi, deux jours par semaine, ce genre d'endroit?
Non, alors l'été, ça marche 7 sur 7.
Ah oui.
Et pendant l'année, en effet, c'est 2-3 jours par semaine, c'est-à-dire les week-ends. Mais alors, c'est vrai que la nuit est devenue beaucoup plus compliquée pour remplir des établissements 7 sur 7. Comme Delphine le disait, elle fréquentait le Baron à une époque. Le Baron, c'était 7 sur 7 rempli. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus dur de faire sortir des gens un dimanche soir.
Pourquoi, ton avis?
Alors, je voudrais savoir, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez en province, et je sais si vous êtes nombreux, parce que là, on est très parisiens, hein, on parle des établissements parisiens, et Paris est loin d'être toute la France, heureusement.
Non, du tout.
Et je voudrais savoir, moi, comment ça se passe à Lyon, à Marseille, à Toulouse, enfin, un peu partout, vous, à Strasbourg même, hein, même à Lille.
De toutes les villes de France, mais étant assez familier de la nuit parisienne et de la nuit de, notamment de la Côte d'Azur. La Côte d'Azur actuellement c'est une catastrophe pour eux parce que les gens ne vont pas en vacances, les gens ne bougent pas dans le sud, on n'a plus le tourisme étranger, donc toutes les boîtes cannoises, niçoises, tropéziennes, marseillaises vont être en grande souffrance, même si vous allez plutôt vers le Cap d'Agde, Montpellier ou des villes comme Bordeaux et Biarritz, ça va être la même souffrance. La situation qui cristallise à peu près tout actuellement fait que beaucoup d'établissements vont certainement mettre la clé sous la porte. C'est pour nous très difficile.
Merci Big John, merci infiniment de ton appel, merci beaucoup d'avoir participé avec nous et on t'embrasse, on te souhaite bon courage.
Merci.
Et d'être heureux de reprendre cette activité. Se retrouve dans quelques instants dans Le Louche à l'affiche. Après une courte pause, à tout de suite.
RMC jusqu'à 16h.
Le Louche à l'affiche.
Merci d'être avec nous encore pour quelques minutes. On est en train de parler des discothèques et de leur fin en ce moment, évidemment, grâce au Covid-19, à cause du Covid-19. Et on s'inquiète. On s'inquiète pour la fête et les fêtards. Parce que, on aimerait bien que ça continue, tout ça, cette affaire-là.
Ouais.
Voilà. Mais là, l'heure est au.
C'est quoi ça?
Delphine, comme d'habitude, a été brillante en début d'émission, en étant sûre d'avoir trouvé la bonne réponse. Sûre en plus, hein.
Oui, elle était convaincue.
Avec l'histoire de criquet plus qu'étrange, enfin une information assez diffuse. D'abord sur les côtes australiennes, après c'est pas du tout, c'est des agriculteurs, enfin on n'a pas bien compris.
Non.
Mais en tout cas, elle voit des criquets.
C'est ça.
Elle a entendu des criquets. On va réécouter le bruit, on va voir si vraiment ça ressemble à des criquets.
Exactement.
Et elle me regarde en faisant quoi ? Pas du tout. Ah oui, c'est des criquets, ça. Ça ah c'est vraiment ça. Alors, s'il y a bien un bruit de criquet reconnaissable, c'est celui-là.
Hein. Bien sûr.
Cette tu trouves pas
Audica.
Mais si, c'est ça.
Audica, appelez vite Delphine Benatar. Elle peut vous être utile. Vraiment. Voilà. Elle fait de la radio, elle entend rien. Tout d'un coup, vous pourriez changer sa vie et faire une publicité enfin efficace.
C'est vrai que c'est rien que ça.
Je peux pas vous dire autre chose.
Hein. Rien que le concept, elle fait de la radio, elle entend rien, c'est un bon départ.
C'est un bon départ. Bah, déjà, au départ, tu sais, il y a un miscasting au départ.
Ça pourrait être
elle n'a aucune feuille. Elle n'a aucune oreille.
C'est pas vraiment, on m'a toujours dit le contraire.
Ça pourrait être le titre d'un film des années 70, tu sais.
C'est au centre qu'on te dit ça, Delphine. Ouais. Il faut petit à petit te réhabituer à la vraie vie. Oui, t'entends très bien, Delphine, bien sûr. Ah, Jean-Jean. Oui, elle entend bien.
En tout cas, cet indice sonore doit vous faire deviner une actualité. Et on a Karim qui est avec nous.
Salut Karim.
Salut Karim.
Bienvenue dans le Louche à l'affiche.
C'est oui, merci d'être avec nous. Merci. Alors, on t'écoute, Karim. À quoi tu penses?
Alors, tu penses. Je voulais juste dire une petite chose avant.
Oui, je t'en prie.
C'est que j'ai regardé l'invitation très récemment. Je ne suis pas forcément un grand fan de pièces de théâtre, mais j'ai passé beaucoup de temps à rire. Et donc, si Philippe, tu pouvais passer le bonjour à Charlie et à Jeff, ça serait sympa.
C'est les personnages.
J'y manquerai pas, je te remercie de l'invitation. Une pièce que j'ai jouée, voilà, Charlie, c'est le personnage que je jouais, Gad Elmaleh, qui jouait Jeff. Et on a, toute l'année dernière, on a beaucoup, beaucoup ri. Oui, je sais, ça repassait encore hier soir sur. Sur M6, j'ai reçu des messages dans ce sens-là. Bah, et je remercie tous ceux qui m'envoient des messages et qui m'en disent du bien. Donc merci infiniment. Voilà, merci Karim. Alors à quoi tu penses, toi?
Alors moi, j'avais l'impression d'entendre le bruit d'oignons parce qu'il y a une chinoise qui a fait envoyer une tonne d'oignons.
Il y a pire que moi, je pense.
Non,
arrête de te moquer.
Oh là là,
arrête de te moquer.
Ah non, mais attends, on parle à Karim.
On a le droit de se moquer de moi.
Je vais me permettre d'intervenir.
Surtout, j'ai pas triché, moi.
Karim,
merci, Karim.
On met l'église au centre du village.
Mais il faut la remettre droite.
Déjà, Karim n'a pas triché. Effectivement, Karim, sincèrement, ça aurait vraiment pu être ça.
Un bruit d'oignons.
C'est une info.
On peut couper des oignons. Oui, ça peut être un bruit de coupage d'oignons.
Oui, c'est une chinoise qui a été quittée par son copain. Et qui, pour se venger, lui a fait livrer devant chez lui, devant sa porte, une tonne d'oignons pour qu'il pleure.
Autant qu'elle a pleuré. Voilà.
C'est joli comme mignon. Histoire.
Ouais. C'est joli, ouais.
C'est beaucoup plus intéressant qu'une histoire de criquet qui.
Qui en plus est
complètement. Désolé, biblique. Karim.
Désolé. Des infos de la Bible, elle, en fait. Elle croit que c'est relié à l'actualité de la Bible.
C'est ça.
C'est l'invasion des criquets. Non, les sept plaies d'Égypte. Non, ça n'a rien à voir avec l'Égypte, Delphine, rien. Voilà. Arrête ça. Bon, merci, mon Karim. On t'embrasse
merci
très fort.
Merci,
mon Karim. Gros bisous. Salut.
On a Bruno qui est avec nous.
Salut, Bruno.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Salut, Bruno. Bienvenue.
Bonjour, mon Bruno. Tu vas bien? Tu te portes bien?
Ça va, mon petit Gilles?
Ah non.
Ah non, bah, Gilles, il n'est pas là. C'est Philippe, c'est son frère.
Ah, le louche. Et je voulais dire un petit coucou à Eric Barré.
Oui, c'est ça. Exactement.
Salut, c'est ça.
C'est Gilles Lelouch et Eric Barré.
Ça va, Mathieu?
Ah oui, oui.
Parce que je suis du 62, il va comprendre.
Pas de Calais, ouais. C'est juste à côté.
Voilà.
Ouais.
Et moi, j'ai vu ce matin sur RMC, c'était l'émission de Jean-Jacques Bourdin. C'était une invasion de criquet en Inde.
Voilà. Je pense qu'il vient du même endroit que toi, Delphine. Vous êtes confiné depuis le début au même centre. Vous êtes dans le même centre.
Non, c'est pas ça. Désolé, mon Bruno. Désolé.
Non. C'est pas ça, Jean-Paul. Mais merci d'avoir appelé.
Au revoir, Eric.
Mais c'est vrai qu'il y a
on t'embrasse fort, Sylvain.
Un petit lien de, je sais pas, de cousinage avec Delphine.
Mon Dieu.
Bon, on t'embrasse très fort. Merci.
Donc,
en tout cas,
on va passer à l'indice de Cura, forcément.
Bonsoir. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Je vous aime.
Le premier indice de Cura.
Tu envoies le son.
C'est un gros indice. Donc si vous avez une idée, vous envoyez LAL par SMS au 73216. LAL.
Je pense qu'on est très très loin des criquets.
Oui, oui,
je ne veux pas dire, mais là.
C'est quoi ce générique?
LAL par SMS au 73216. Bon, tout le monde l'a reconnu.
Elle ne se souvient même pas du générique. Tu vois, quand je dis qu'elle a une oreille en acier. Ouais. En acier trempé. Hein. Qu'est-ce que ça peut bien être que j'ai
l'oreille
que
interne
la France entière a reconnue.
L'oreille interne est complètement bousillée. Complètement.
Non, elle est bousillée. Non, mais elle entendait. En fait, elle est déformante.
Je m'en souviens pas.
Non, attends. C'est la seule nana au monde qui n'a pas une autre. Non, elle n'est pas morte, son oreille interne. Non. Elle est déformante. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est menteuse. Elle a une oreille interne menteuse. Il raconte n'importe quoi.
Elle se grattait l'oreille avec des crayons de papier quand elle était gosse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
N'importe quoi.
Ma belle Delphine. Oh. Allez, on se retrouve, les enfants. De quoi on va parler, juste mon petit Rémi, dans cette deuxième heure d'émission?
On va parler des clichés régionaux et on va voir que les clichés sur les régions, par exemple, que dans le Nord, il fait tout le temps gris, qu'en Bretagne, il pleut tout le temps, tout ça, va falloir largement les réviser, nos clichés. On en parle dans un instant.
On va discuter de ça dans une petite, dans un petit instant. D'abord, une courte pause, les infos, et on se retrouve juste après. On vous embrasse, les Liens et les Lalliennes. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 16h.
Le Louche à l'affiche.